Jésus-Christ vous présente le livre inspiré, leçon 4. Nous voici arrivés à la dernière leçon et de la série, traitant de l'inspiration du plus extraordinaire livre que la Terre ait jamais connu. Nous vivons dans un monde qui se vante d'être scientifique et qu'on appelle parfois à notre époque l'âge de la science. Chaque année, on découvre des milliers de nouveaux faits scientifiques, ce qui a pour résultat de développer le confort à un point tel, ces dernières années, qu'on peut difficilement imaginer quelle nouvelle découverte pourrait bien encore sortir de l'imagination de l'homme. La Bible, selon toute apparence, n'a jamais prétendu être un livre de science, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle traite de nombreuses vérités scientifiques. Une des meilleures preuves de son inspiration est précisément le fait qu'une grande variété de ces vérités scientifiques sont restées cachées dans ces pages durant des siècles en attendant d'être récemment découvertes par l'homme. Dans cette leçon, nous allons voir quelques-unes de ces vérités scientifiques incontestables qui ont été découvertes il y a relativement peu de temps. Et nous découvrons que la Bible en faisait mention bien des siècles auparavant. Tout d'abord, nous avons besoin d'être avertis de deux choses. La première est que l'on peut très bien anticiper dans ce genre de raisonnement. Ce n'est pas parce que la Bible dit que quelque chose est rond que l'on trouvera une prédiction sur l'existence de l'automobile mondiale avec son volant. En laissant leur imagination s'est débridée, certains hommes ont trouvé des voitures, des avions, la télévision, la radio, les sous-marins, la bombe atomique, et même les soucoupes volantes dans les Écritures. La deuxième chose est que nous devons garder présent à l'esprit le fait que les différents écrivains de la Bible ne comprenaient pas nécessairement les choses dont ils parlaient, et que le but de ce qu'ils écrivaient n'était pas d'enseigner des faits scientifiques. Cependant, en racontant l'histoire biblique, Dieu, par les écrivains, cite certaines vérités scientifiques qui ne furent découvertes que plus tard par l'homme. C'est pourquoi on peut dire que dans certains cas, on retrouve la science moderne dans un livre ancien. Nous allons prendre en considération certains des faits scientifiques qui sont révélés dans un livre ancien qui est la Bible. Et ceci dit, nous allons maintenant, de l'avant. Herbert Spencer, mort en 1903, fut le premier à découvrir ce que l'on appelle les cinq manifestations de l'inconnu. Il annonça au monde que tout était basé sur cinq principes fondamentaux qui sont le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Aujourd'hui, cela est accepté dans le domaine de la science comme étant un fait indéniable. Aussi étonnant que cela puisse paraître, quand Dieu fit écrire à Moïse l'histoire de la création, il lui fit mettre ces cinq manifestations de l'inconnu dans le premier verset qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Notons maintenant avec soin ce que dit Moïse. Au commencement, ce qui représente le temps. Dieu, ce qui est la force, créa l'action. Les cieux, ce qui est l'espace, et la terre, qui est la matière. Moïse a donc cité les cinq principes fondamentaux dans le premier verset du premier livre de la Bible. La seule réponse logique qu'on peut donner à ceci est que Dieu lui a dit exactement ce qu'il devait écrire. Souvenons que Moïse n'était pas en train de faire une citation de vérité scientifique, mais qu'il faisait plutôt un exposé de la création. En ce faisant, il était absolument nécessaire d'employer ces cinq principes fondamentaux. Il ne les a probablement pas compris lui-même. Il a cependant écrit avec une complète précision. Le second argument que nous allons utiliser a pour sujet les trois domaines bien connus, minéral, végétal et animal. Aujourd'hui, nous réalisons que tout ce qui n'est pas manufacturé peut en fait être classé dans une de ces trois catégories. Les écrits de l'Antiquité révèlent que nos ancêtres ne connaissaient pas cette classification des choses qui est d'ailleurs relativement récente puisqu'elle date de 1735. Depuis cette découverte, l'homme s'est efforcé de classer les choses soit comme minéral, soit comme végétal, soit comme animal. Durant le premier chapitre du livre de la Genèse, Moïse va rédiger quelque chose tout en ne réalisant pas ce qu'il dit réellement, mais il est guidé par Dieu pour établir la même classification. Les 10 premiers versets décrivent la création du domaine minéral. Dans les 9 versets suivants, ils discutent du royaume végétal. Et ensuite, dans le reste du chapitre, soit les 11 versets qui suivent, ils racontent l'histoire du règne animal. Comment Moïse pouvait-il connaître cette division des choses? Et on ne peut répondre à cette question sans prendre Dieu en considération. La prochaine idée, en rapport avec les anciens faits scientifiques, sera en rapport avec le lit commun à toutes les mères. De nos jours, nous acceptons sans discuter ce que représente cette image. Nous savons que tous les océans et toutes les mers du monde se touchent et ont un même lit. Les hommes ne sont plus d'accord avec la théorie ancienne, bien connue, qui voulait que seulement une mer existât. Moïse dit en Genèse, chapitre 1, versets 9 et 10, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Comment Moïse savait-il ces choses-là? Le problème n'est pas difficile. Il faut simplement réaliser que Dieu était sa source d'inspiration. Ensuite, nous voulons vous présenter un argument relatif à un élément également bien connu de tous et qui se rapporte au fait que toute la rivière se jette dans la mer, mais que la mer ne déborde pas à cause de l'influx de l'eau. Le cycle de l'eau est maintenant défini par l'homme. L'eau est précipitée comme eau ou neige, est ensuite traînée vers la mer par le système de la rivière, et s'évapore ensuite pour reformer des nuages dans un cycle sans fin. Il n'est pas étonnant de constater qu'on a appelé Salomon l'homme sage. Bien des siècles avant que ce fameux cycle de l'eau ne soit connu de l'homme, il disait déjà « Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. » Le fait de savoir si ce verset parle du cycle de l'eau ou non n'est pas important. Mais ce qu'il est, c'est que Salomon a dit « Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. » Comment l'écrivain de l'Ecclésiaste savait-il cela? Il n'a certainement pas voyagé autour du globe en quête d'observation pour étayer cette thèse. De toute évidence, la réponse à cette question est donnée par l'apôtre Pierre qui dit en 2 Pierre chapitre 1 et verset 21 que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'astronomie est sans conteste le plus oublié de tous les éléments scientifiques naturels. Durant les dernières décades, des centaines de découvertes remarquables ont été faites dans l'espace. L'une des plus phénoménales d'entre elles a été qu'on s'est aperçu qu'un endroit vide de corps céleste existait dans l'espace. Il ne contient ni planète tournant dans le système solaire, ni étoiles brillantes d'aucune sorte. Quand on braque un télescope géant vers le sud, l'est ou l'ouest, on y aperçoit des millions d'étoiles. Mais quand on tourne l'instrument exactement vers le nord, on découvre qu'un endroit vide existe dans le ciel. Le télescope était une invention relativement récente. L'homme n'a pas pu avoir connaissance de cette particularité que seulement depuis quelques dizaines d'années. Et pourtant, Job, il y a plus de 3000 ans, disait déjà, en parlant de Dieu, il étend le septentrion, c'est-à-dire le nord, sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Job atteste donc l'existence de cet endroit vide dans le nord de l'espace. Il est plus que probable que le prophète n'ait pas compris exactement ce qu'il écrivait, et pourtant il l'a fait d'une manière très exacte. Sur quoi repose la terre? C'est la question que chacun se posait à un certain moment de sa vie quand il était enfant. Il fut un temps où même les adultes intelligents étaient dans la plus grande perplexité à ce sujet. À une certaine époque, les Romains et les Grecs étaient les peuples les plus évolués du monde, et pourtant, ils croyaient que la Terre était maintenue en place par des poteaux, ou même portée par le géant Atlas. Les gens les plus intelligents de ce temps-là soutenaient même qu'ils la portaient sur les épaules et non sur la nuque, comme la plupart des gens le pensaient. Une autre théorie qui serait étrange à l'heure actuelle, mais qui n'était pas du tout alors, voulait que la Terre soit portée par des éléphants soutenus eux-mêmes par une tortue géante. Nous connaissons évidemment la stupidité, la fausseté de telles assertions. Nous savons, nous, que la Terre ne repose sur rien. Ce qui prouve encore une fois l'inspiration de la Bible, c'est que Job avait dit bien des siècles avant tout cela, en parlant de Dieu, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il est aussi absolument impensable de croire que Job ait songé ainsi à ce sujet, car il a écrit ces mots à une époque où les gens laissaient libre cours pour résoudre des problèmes tels que celui-là, de la suspension de la terre. Et pourtant, nul non-sens ne s'est glissé dans les écrits de Job. Paul, au sujet de Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Cela démontre comment des hommes tels que Job ont pu écrire des vérités scientifiques qui n'ont été découvertes que bien des siècles plus tard. C'était en fait Dieu qui parlait. La discussion au sujet de la forme de la terre. On s'y sait depuis longtemps. Tous les hommes reconnaissent la rotondité de cette terre sur laquelle nous vivons est un fait accompli. Il fut pourtant un temps où on croyait universellement que la terre était plate. On disait que si on allait trop loin, on risquait de tomber. La Bible a été écrite durant cette époque-là. Il fallut attendre le Moyen Âge pour qu'on découvre que cette théorie était erronée. Ésaïe, 750 ans avant Jésus-Christ, ne s'était pas laissé influencer par les gens de son temps, car il écrit en parlant de Dieu. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Il savait donc que la terre était ronde. D'autres écrivains de la Bible emploient d'ailleurs un langage qui, sans aucun doute, se rapporte à la forme de la terre. Leurs informations ont dû sans conteste venir de Dieu. Personne d'autre n'aurait pu, à cette époque, connaître ce fait. Le grand Isaac Newton, qui découvrait l'attraction universelle, comme d'autres savants d'ailleurs, soutenait que la lumière venait du Soleil et d'autres corps lumineux. Cependant, depuis seulement quelques années, la science moderne suppose que la lumière existait avant le Soleil, la Lune et les étoiles. On sait maintenant que le Soleil et la Lune ne sont que des facteurs déterminants des jours et des années, ainsi que les mois, les saisons, et que même s'il n'existait pas, la Terre resterait éclairée. Ce qui est étrange, c'est que ce fait se trouvait déjà écrit en long et en large dans les paroles les plus anciens des livres, la Bible. Moïse dit dans le premier chapitre de la Genèse, et au verset 3, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Après le récit de la Genèse, la lumière fut créée le tout premier jour de la création, alors qu'il n'existait encore ni soleil, ni lune, ni étoile. En lisant Genèse 1, chapitre 14 et 16, on découvre que ce n'est que le quatrième jour de la semaine de la création que Dieu dit qu'il y ait un luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Moïse ajoute alors, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Nous pouvons donc voir que comme l'homme l'a découvert il y a peu de temps, la lumière a été créée le premier jour, comment Moïse connaissait-il cet important fait scientifique? C'est tout simplement parce que Dieu le lui avait dit. Sans doute ne comprit-il pas ce qu'il écrivait, mais il ne le fit pas moins avec une exactitude étonnante. L'homme n'a pas toujours eu conscience du fait qu'il n'existe que quatre sortes de chair différentes quant à leur nature. Il n'y a relativement que peu de temps que cette classification a été découverte. De nos jours, nous classifions toujours toutes les chairs comme étant soit humaines, soit provenant des quadrupèdes comme le bœuf que nous voyons ici préparé, soit venant des oiseaux, ou bien encore du poisson. Il n'existe pas d'autres sortes de chair. Bien avant que cette découverte ne soit faite, c'est-à-dire il y a environ 2000 ans, l'apôtre Paul disait déjà dans le Nouveau Testament et dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15 et au verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. De qui a-t-il appris cela ? De Dieu, sans aucun doute, puisqu'il dit un peu plus loin, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Le fondateur de la science, qu'on appelle aujourd'hui l'hydrographie, est un certain Matthieu Maury. Avant lui, il n'existait aucune route de navigation à suivre par les bateaux, ni aucune carte marine que les capitaines auraient pu étudier. On raconte qu'un jour, alors qu'il était malade, son fils lui lisait la Bible. Il parcourut le 8e chapitre des psaumes et lut que Dieu a donné aux hommes la domination sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer et sur tout ce qui parcourt les sentiers des mers. En entendant ce passage, Matthieu Maury demanda à son fils « Relis-le-moi ». Et dit ensuite, si la parole de Dieu dit qu'il y a des sentiers dans les mers, et qu'ils existent réellement, je les trouverai. Et c'est ce qu'il fit. En 1845, il publia le précis, une carte des vents et des courants qui complétèrent bientôt la direction de la navigation. Les principaux résultats de ces travaux sont groupés dans sa géographie physique de la mer qui parut en 1856. Et qui a été traduite dans de nombreuses langues. Sa lettre sur les directives à suivre pour les navires à vapeur qui traversent l'Atlantique est un de ses ouvrages les plus estimés. David, lui, n'était pas un savant, mais les faits scientifiques qu'il a mentionnés sont en parfaite harmonie avec ce qui est maintenant universellement accepté sur les courants marins. L'argument suivant que nous emploierons pour prouver l'exactitude de ce qu'avance la Bible a trait à Noé, le plus grand constructeur naval d'autrefois. Dieu avait donné l'avertissement suivant. À la fin de toute chair est arrêtée par de vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Genèse chapitre 6, verset 13. Et en stricte observance de l'ordre de Dieu, Noé et ses fils procédèrent à la construction de la fameuse arche. Dieu avait stipulé exactement ce qu'il fallait faire pour l'édification de l'arche. Il en donna notamment les dimensions exactes en Genèse, chapitre 6 et verset 15, c'est-à-dire longueur 300 coudées, largeur 50 coudées, hauteur 30 coudées. Une des choses les plus étonnantes au sujet de la construction de l'arche, c'est que de nos jours, les mêmes proportions sont toujours en usage en matière de construction navale. Suite à cette constatation, la question qui nous vient tout naturellement à l'esprit est « Qui a enseigné à Noé à construire des navires ?» Comment pouvait-il savoir que ces proportions-là étaient les meilleures ? La réponse est tout simplement « Il a suivi les instructions de Dieu ». Chacun accepte que les éclairs accompagnent habituellement la pluie. Cela est cru et compris par tous. explication quant à la cause des éclairs. Maintenant, les savants ont trouvé la solution à ce problème. Ils ont découvert que l'électricité statique peut se former dans l'eau qui se condense et que c'est pourquoi la pluie est souvent accompagnée d'éclairs. Les hommes vivant au cours des nombreux siècles précédant le nôtre auraient pu connaître la réponse à cette énigme. Car le prophète Jérémie avait dit « Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie. » Jérémie n'était pourtant pas un savant, et il n'écrivait pas là une théorie sur les éclairs et la pluie. Disons plutôt que quand ces faits étaient nécessaires dans ses écrits, il les stipulait avec une grande justesse. Ce n'est pourtant que grâce à l'aide de Dieu qu'il a pu le faire. La géographie est de nos jours considérée comme étant une science. La Bible a été écrite bien longtemps avant que l'homme ne s'intéresse à cette discipline. Elle est truffée de centaines de références à la géographie. Et jusqu'à ce jour, on ne l'a pas trouvée en erreur une seule fois. À l'encontre des cartes et des livres de géographie, la Bible, elle, n'a jamais besoin d'être revisée. Elle est toujours à jour, parce qu'elle était parfaite au départ. Voyons maintenant quelques exemples géographiques que cite la Bible. Jésus dit à un certain moment, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il s'agissait de la parabole du bon samaritain. Si quelqu'un voyage de Jérusalem à Jéricho, il descend en effet. La région de Jéricho est située bien plus bas que Jérusalem. Un cas similaire peut être trouvé en Luc chapitre 2, verset 42, où il est dit que Jésus, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Oui, quand on quitte Nazareth et qu'on se dirige vers Jérusalem, on monte. Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Poser cette question équivaut à demander combien il y a de grains de sable le long de la côte de la Manche. La réponse saute aux yeux. Dieu seul le sait. Cependant, durant des millénaires, les hommes se sont efforcés de compter les étoiles. On a même avancé des chiffres. Du temps de Socrate, on disait qu'il y en avait 1000, alors qu'au Moyen-Âge, on prétendait qu'il y en avait au moins 10 000. Nous savons maintenant combien il serait vain d'essayer de les compter, car on estime qu'il y en a bien plus de 100 milliards, rien que dans nos galaxies. Alors que les hommes fixèrent le ciel en essayant de compter les étoiles, Dieu disait déjà à Abraham, en Genèse chapitre 15 et verset 5, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et il disait également à David, « De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur. De toute évidence, les étoiles sont innombrables et elles continueront à briller dans le ciel comme autant de preuves que l'inspiration des Écritures est bien divine. Chaque jour davantage, nous avons la preuve que la parole de Dieu représente une force, une vérité qui jamais ne cessera de nous étonner et de nous émerveiller. Nous pourrons donc lui confier notre vie spirituelle en toute confiance. En terminant notre étude ensemble, j'aimerais vous citer quelques lignes qu'a écrites un des membres de l'Église du Christ. Très souvent, certains démonisent la Bible et prouvent qu'elle est soi-disant fausse. Et pourtant, elle est toujours plus forte et s'élève toujours plus haut dans le ciel de la vérité. Laissons les sceptiques attaquer notre vieille Bible. Elle n'en sortira que plus forte. Oui. Laissons-les critiquer ces paroles de Dieu et soyons même reconnaissants de ces attaques. Car elles font jaillir des arguments toujours plus convaincants en faveur de sa véracité. Au plus on frotte la vérité, au plus elle brille.